Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des balados Avenue.ca. Avec vous au microphone, Françoise Genet, ravie de vous retrouver, merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, on poursuit notre série d'entretiens vagabonds avec la journaliste voyage Marie-Julie Gagnon, que vous pouvez lire sur Avenue.ca toutes les semaines. Voyager, on le sait, c'est changer d'horizon, de faune, de flore, de culture, de paysage, de fuseau horaire et même de nourriture. Pas pour rien qu'on parle souvent de chocs culturels qui font partie des joies ou des risques du voyage. Et c'est justement de ce sujet dont on parle avec notre invitée. Quels furent ses plus grands chocs culturels? C'est la question à laquelle répond aujourd'hui Marie-Julie Gagnon. Je prends le temps avant de nous lancer dans le sujet du jour pour vous rappeler qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC et que tous les liens utiles pour les contenus évoqués sont dans le descriptif de l'épisode. Et bien sûr, je vous invite à aimer notre page Facebook Avenue.ca, à vous inscrire à notre infolettre et à lire notre Marie-Julie chaque semaine dans notre section Partir. Bonjour Marie-Julie Gagnon.
Bonjour François Genet.
Alors, de retour pour un entretien vagabond.
J'aime tellement ça. À chaque fois que tu dis entretien vagabond, j'entends la petite chanson du vagabond. Là.
Oui, le chien, oui,
il est une fois qui s'appelle...
C'est vrai que tu as l'âme vagabondeuse, toi, quand même. Hein?
Quand même.
Quand même. Julie, on partage, toi et moi, une expérience similaire, celle d'avoir commencé à voyager à l'envers.
Oui.
Alors moi, j'ai vu les pyramides d'Égypte, la Palestine et Israël avant de voir Paris.
Ça ressemble à moi, oui.
Ça ressemble à toi, ça?
Oui, oui.
Raconte-nous ça. T'as commencé ça comment, toi?
Écoute, bien, tu sais, moi, oui, je suis partie une petite semaine au Portugal. Après ça, des petites escapades, genre quelques jours au Nouveau-Brunswick, quelques jours au Québec. Tu sais, ce genre de séjour-là, une semaine à Cuba, mettons.
Ah oui, oui. Moi aussi, j'avais fait une semaine à Cuba en 89, à l'époque des Russes.
Ah oui?
On n'avait que des Russes et des Québécois. Il y avait 5 hôtels sur la plage de Varadero.
Oh mon Dieu!
Je vous promets que c'était un paradis.
C'était clairement pas comme aujourd'hui,
non,
ça, c'est sûr
et certain. Non, non, non,
ça n'a rien à voir. Mais donc, c'est ça. Donc, c'est à peu près mes expériences de voyage. Ça se résumait à ça. Et j'ai postulé pour un stage de vidéoreporter à Ouagadougou. Je voulais apprendre à faire du vidéoreportage. J'ai longtemps été une fan de la course Destination Monde, mais j'ai pas eu la patience, parce que je voulais être journaliste d'envie, d'attendre et de postuler chaque année jusqu'à temps qu'ils me prennent. Donc, à un moment donné, j'ai travaillé comme journaliste. Puis là, j'ai dit, j'ai le goût d'aller faire un stage pour au moins faire ce trip-là, d'apprendre à manier la caméra, à faire de la vidéo autrement, parce que j'avais déjà la formation de journaliste, mais d'être de l'autre côté pour mieux comprendre l'ensemble de tout ça. Et pourquoi pas, tant qu'à faire, le faire dans un cadre exotique. Donc, c'était un stage de coopération internationale. C'était à Ouagadougou. Donc, mon mandat, c'était un peu de prendre des images pour des banques d'archives et tout ça, de faire des reportages aussi qui étaient axés sur certains sujets plus humanitaires, ce genre de choses-là. Mais moi, j'arrive dans toute ma naïveté de fille de 24 ans qui a très, très peu voyagé. Tu vois le genre un peu. On s'entend qu'arriver en Afrique pour la première fois... quand on a très, très peu bougé, qu'on vient d'un coin assez... une région éloignée et qu'on a des images qu'on a vues à la télé, mais la sensation, il faut déjà parler de la sensation. Quand tu descends de l'avion, que tu sens, que tu ressens la chaleur qui est comme très sèche et tout pour la première fois. Et je me souviens encore des images qui défilaient dans la voiture qui m'amenait. J'habitais chez un Québécois qui vivait là-bas pendant mon stage. Et j'ai encore l'image du trajet avec les maisons, puis la différence. T'sais, j'avais des images très enfantines. Tu sais, elle a 3 petits cochons, là, la maison en paille, en brique, puis en bois là, mais presque plus en carton dans ce cas-là. Là. L'espèce de... Je voyais ça, j'ai encore ces images-là qui sont très nettes de premier choc culturel. Mais étonnamment, je me faisais croire que je n'étais pas en choc culturel. T'sais, moi, j'étais un peu dans le déni. J'étais comme, ah non, tout va bien, voyons, je suis au-dessus de tout ça. T'sais, je me disais, bon, puis il y avait un autre stagiaire québécois qui était arrivé avant moi, qui m'avait accueilli. Donc, je ne sais pas non plus comme si j'arrivais complètement seule ou j'étais jetée là-dedans. J'avais un certain encadrement à distance aussi parce que c'était pour un stage et tout ça. Mais la première affaire, première épreuve, il fallait que j'aille me chercher un permis pour pouvoir filmer, une espèce d'autorisation pour pouvoir filmer. Et je me suis perdue dans les dédales administratifs. Ça a pris, je ne sais plus combien de temps avant d'avoir la fameuse autorisation pour filmer. Et parmi les choses essentielles qui étaient très clairement mentionnées, il y avait ne pas filmer d'édifices militaires ou de militaires et tout ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui est arrivé, tu penses?
T'as pas su le reconnaître ou t'as eu envie de le faire?
Mais moi, c'était mes premières journées de stage. Ah, je me prends un taxi, je m'en vais rouler, puis je prends des images générales de la ville et tout, et je prends des images d'une installation militaire.
La mitraillette sort rapidement, habituellement.
Le Kalachnikov était très proche de ma face. C'est le genre de moment où tu te dis, ah oui, d'accord, c'est pas juste dans les films que ça se passe.
C'est un mot qu'on apprend à prononcer rapidement, ça, hein, la Kalachnikov. Oui.
Mais bref, ça s'est bien passé, je leur ai expliqué, puis je suis très bonne aussi pour pleurer, puis j'avais pas besoin de beaucoup me forcer.
Très utile, je vous le dis, très utile.
J'avais pas besoin de forcer beaucoup la note, c'est ce que j'étais vraiment terrorisée. Oui. Ils m'ont éventuellement laissé repartir, mais j'étais pas au bout de mes peines, parce que je connaissais pas les codes culturels, comme je te dis. Puis tu sais, on a tous des... Quand on fait des stages internationaux comme ça, on a des formations de l'ACDI avant de partir. Voici les étapes du choc culturel. Puis c'est tout ce genre de belles choses-là. Mais moi, j'ai jamais vécu ça dans ce ordre-là. Ça s'est jamais passé de même. Puis non seulement ça, mais je pense que je surestimais ma capacité à m'adapter à cette époque-là, alors que j'avais rien vu, comprends-tu? Et là, j'ai mon fameux permis, comme je te dis, mais je me dis, ah, je peux filmer n'importe où. J'arrive dans un marché. Tu sais, je me dis, ça va être beau, ça va être coloré, un marché. Mais je n'étais jamais allée dans un marché africain, moi. Françoise, en 5 secondes et quart, j'ai sorti ma caméra. C'était quand même des grosses caméras aussi en 2000. Ça, c'était en 99. Et j'avais ma caméra comme ça et je me suis retrouvée avec une foule autour de moi qui me huait, qui criait « Tu vas nous donner de l'argent! Hey, tu peux pas me filmer comme ça! Tu dois me donner de l'argent! Donne-moi le... Toi, toi la blanche, là, toi la française, là, toi, là, c'est toi qui ton peuple, là, tu veux toujours nous exploiter, ta-ta-ta! » C'est comme si tu deviens l'emblème de tout ce qui haïsse. Soudainement, tu sais, c'est toi qui incarne ça, là. Écoute, j'étais complètement paralysée. C'est le chauffeur de taxi qui m'a littéralement ramenée dans la voiture après, tu sais. Fait que là, j'ai pris après ça quelques jours relax dans la piscine du coopérant chez qui j'habitais pour relaxer et remettre ça en perspective. Puis après, mon séjour s'est beaucoup mieux déroulé.
Et surtout, demander la permission avant de sortir le Kodak.
Ben voilà, c'est ça. Faut toujours demander la permission, mais j'étais loin. J'étais loin. Tu sais, quand t'es loin, tu penses que tu te dis, ah, de toute façon, on...
Toi, tu t'étais adapté finalement du lac Saint-Jean-Montréal, alors tu t'es dit, je suis capable de m'adapter à toutes les situations.
Voilà.
Un marché africain, il n'y a rien là.
Il n'y a rien là. Mais par la suite, j'ai quand même eu des bons moments dans les marchés africains. Puis, tu sais, j'ai compris qu'il y avait d'autres marchés moins intenses aussi où je pouvais aller. Et aussi, une chose intéressante que j'ai comprise, c'est que j'ai trouvé une chauffeuse de taxi. Une femme qui m'a aidée beaucoup aussi comme pour accéder à certains lieux et à négocier justement avec les femmes du marché, qui n'étaient pas toujours très, très commodes, on va le dire. Là, c'était pas toujours évident. Mais j'ai fait beaucoup de faux pas comme ça, vraiment. Là, au début, c'était ridicule. Là, c'était... Puis tu sais, l'autre chose aussi, Françoise, tu sais, on se connaît un peu, là. Tu le vois que mon rythme, je suis très, très dans l'action.
Spontané.
Oui, pas juste dans l'action, mais c'est que tout va vite. Oui, ça va jamais assez vite pour moi. Je suis un petit peu une Speedy Gonzalez. Mais moi, dans un contexte africain, qu'est-ce que tu penses qui se passe?
À 44 degrés.
Non, étonnamment, je supporte mieux la chaleur que le froid. Mais là, j'étais toujours, toujours, toujours confrontée à cette espèce de rythme-là qui est tellement contre nature, tu sais. Et je prenais sur moi, tu sais. J'ai quand même appris des... Tu sais, respire, Marie-Julie, c'est pas grave, il n'y a rien de grave, t'es pas chez toi. Tu sais, encore une fois, j'étais un peu dans le déni. Mais là, il y a une journée, OK? Tu sais, j'envoyais beaucoup, j'étais beaucoup dans la correspondance, j'envoyais des cartes postales à mes grands-mères, tu sais, j'écrivais beaucoup, beaucoup de trucs. Il y a une journée où je m'en vais acheter des timbres à l'aéroport. J'allais au bureau de poste de l'aéroport parce que c'était celui où il y avait toujours des timbres internationaux et tout. Et il y avait toujours une file, mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'étais rendue habituée, tu sais, on fait la file. Puis là, je fais la file, puis c'est long. Et j'arrive, peut-être au bout d'une bonne demi-heure ou en dessous du soleil, tu sais, à faire ma file. Et là, la madame, la préposée, me dit « Il n'y a plus de timbre. » Là, je fais pardon, c'est parce que je suis pas dans un bureau de poste. « Il n'y a plus de timbre. » Tu sais, genre, il y avait plus de timbre au bureau de poste. Je pense que c'est la fois où j'ai pété ma coche officiellement. Ça faisait à peu près un mois que j'étais là, rendue là. C'est comme si tout ce que j'avais accumulé cette journée-là...
De toute frustration.
Tout ce que je dis qu'il ne faut pas faire en voyage, là, puis péter, tu sais, ça ne donne rien de péter sa coche, là. Mais ça a été vraiment un moment où j'ai explosé, là. C'est comme si j'ai laissé sortir la vapeur, là. Je trouvais ça d'une absurdité. Puis après, ben, après ça, c'est comme si plus rien m'a étonnée après ce moment-là. Pas de timbre au bureau de poste, tu sais. Puis en contrepartie, j'ai été tellement séduite par le fameux système D à l'africaine dont on parle tout le temps, tu sais, tout ce qui se peut puis qui se peut pas ailleurs, tu sais. Il y a énormément de choses par la suite que j'ai appris à relativiser, mais ce moment-là, de putain, mon bureau de poste, c'est resté dans ma tête comme, la goutte qui avait fait déborder le vase.
Parce que c'est vrai que parfois, dans les pays du Sud, comme ça, y a cette espèce d'absence de règles, de structures, de cadres, qui est largement remplacée d'une autre façon par l'entraide et le système D. Et ça prend un certain temps à s'y adapter, mais on comprend vite les avantages de ça. Donc, donc, on peut faire à peu près n'importe quoi sur les routes. Il n'y a pas de petites, de petites remorqueuses qui passent à toutes les heures sur les autoroutes comme ici, au cas où tu serais en panne. Mais par contre, tu apprends rapidement que dès que tu vas t'arrêter, la première ou la deuxième voiture va s'arrêter pour venir te porter secours. Moi, c'était comme ça au Liban. C'est sûr qu'il y a des pays où c'est plus violent. On risque aussi de se faire embarquer. Mais au Liban, c'était pas ça. C'était de l'entraide immédiate. Et j'ai déjà vu quelqu'un qui nous a carrément donné sa roue de secours.
Ah oui?
En lui disant, mais comment on va faire pour te la remettre? Ah, ben moi, j'habite la rue, tu passeras. Alors, on a acheté un plateau de pâtisserie et évidemment, on est allé le remercier et lui porter son pneu, mais des fois, l'absence de structure, mais je comprends la frustration parce que dans nos, dans nos normes nord-américaines d'efficacité et de rendement...
Disons que ça nous confronte à nos limites.
Oui, oui, ça nous confronte à la limite de notre patience, en tout cas.
Voilà.
Tout au moins,
oui. Tu sais, tu parles des routes, des transports. Moi, je conduis pas, tu sais, j'aime pas conduire et tout ça. Et à Ouagadougou, c'était les mobilettes partout, partout, constamment. Puis, tu sais, la nuit, c'est pas éclairé, il y avait pas de lampadaire. Ça se faufile dans tous les sens, c'est fou. C'est vraiment... c'est un espèce de chaos perpétuel. Et ça, j'avoue que je trouvais ça très, très étourdissant puis très stressant aussi comme façon, comme moyen de transport. Puis, il y avait aussi des espèces de taxis collectifs qu'on pouvait prendre.
Les services. Les taxis-services qu'on appelait au Liban, oui.
Ah oui? Et ça, tu te retrouves avec plein de monde mélangé dans ton taxi, mais c'est des voitures qui sont souvent dans des états qui ont pas de sens.
Des vieilles Mercedes tronquées.
Tu sais, genre, tu vois le plancher. Je voyais le sol en dessous à un moment donné dans un... Tu sais, des choses qui se peuvent pas, là, tu sais. Fait que ça donne lieu à... Ça aussi, ça permet de relativiser. Puis je l'ai vécu par la suite au Sénégal dans d'autres transports puis dans d'autres endroits, tu sais.
Mais... Donc, le choc culturel, le premier gros clash, tu le vis à Ouagadougou.
À Ouagadougou. Mais... Tu sais, aussi, ce qui est intéressant, c'est que j'étais quand même 3 mois sur place, puis j'ai vécu différentes choses et tout ça. Puis il y avait, tu sais, les hasards, c'est drôle, les hasards aussi. J'habitais chez un Québécois et ils ont toujours les coopérants, ce qu'on appelle des boys. C'est des employés, donc, qui sont là pour faire le ménage, la cuisine, un peu tout. Et, tu sais, quand on arrive, moi, c'est ça, c'est des choses qui me confrontaient beaucoup. Quand je suis arrivée au début, je me disais, oui, mais... C'est quoi, là, on les exploite? Non, non, non. Mais non, au contraire, c'est des emplois qui, eux, si on les mettait à la porte, ça ferait un scandale parce que, justement, c'est leur gang-pain et tout ça. Et celui qui était là, la grande ironie là-dedans, c'est qu'avant, le coopérant chez qui j'habitais, c'était une famille du Lac-Saint-Jean, d'où je viens, qui était là. Donc, ils savaient faire la tourtière, les tartes.
Ben, voyons donc.
C'était vraiment très drôle.
Clin d'œil culturel, cette fois-là.
Oui, 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 non, vraiment à l'envers, tu sais. Puis cet homme-là, je lui parlais beaucoup parce que j'étais beaucoup à la maison, surtout dans les bouts où je faisais semblant que j'étais pas en choc culturel. Et j'ai développé une bonne relation avec lui. Il me racontait beaucoup de choses. Puis un matin, OK, il est arrivé. Puis là, il commence à me raconter. Ah, je lui dis, comment ça va? Je trouvais qu'il avait l'air pas dans son assiette. Ça va pas très bien. Je lui dis, pourquoi? Il dit, ah, j'ai dû battre ma femme, là. Là, tu fais quoi, toi, quand t'es une Québécoise de 24 ans qui a jamais été confrontée à ça de ta vie? Évidemment, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? J'ai fait, mais voyons, c'est quoi ça? Tu bats ta femme? T'sais, pour moi, j'étais outrée, complètement outrée. Chose qui, après coup, j'ai compris que ça donnait rien pantoute, là. Mais c'est ce moment-là, je dirais, qui a déterminé beaucoup de choses pour moi, pour la suite des choses. J'ai compris vraiment que ma vérité n'était pas la sienne, puis que le pont, pour qu'on se comprenne, il ne pouvait pas exister. C'est comme si c'était tellement une différence majeure dans nos croyances, nos vécus, nos valeurs. J'ai compris que peu importe ce que je dirais, il comprendrait pas, puis peu importe ce qu'il me dirait, je comprendrais pas son point de vue. Tu sais, ça a été une prise de conscience qui m'a à la fois confrontée, mais aidée aussi parce que
l'évangélisation aussi, dans le sens qu'on veut les convaincre d'une autre façon de notre point de vue.
J'ai pas à faire ça.
Exactement.
J'ai pas à faire ça, tu comprends? Puis j'ai pas.
Même si cela dit en passant, on n'est pas d'accord avec le fait de battre
voilà,
sa femme.
Voilà, on n'est pas d'accord. Puis j'ai capoté ma vie, puis tu sais, puis j'ai expliqué pourquoi moi dans ma culture ça marchait, mais je savais après. Je le voyais, en fait, j'ai vu dans ses yeux ce qu'il voyait probablement dans les miens. Puis cette espèce d'effet miroir-là m'a fait encore plus prendre conscience de l'étendue de nos différences. Puis que, OK, ça, c'est un sujet sur lequel, ben, on ne pourra pas gagner l'un de l'autre, on ne va pas en discuter parce que je ne peux pas aider sa femme. Je ne suis pas là pour. C'est compliqué, là. Puis on se retrouve, mais ça m'a vraiment confrontée. Par contre, j'ai vraiment compris. Ça a été une grosse leçon d'humilité, tu sais. Puis c'est pas parce que dans ma culture, j'ai grandi avec toutes ces valeurs-là que ce sont les mêmes ailleurs, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est des choses qui peuvent pas laisser indemne, je pense, ces discussions-là.
Ton plus grand choc culturel, à vie, là, parce que tu as fait l'Asie, tu as habité à Taïwan pendant longtemps. T'as fait le métier de voyager. Il y a dû y en avoir, là. Est-ce que c'est les Indes? On dit souvent que les Indes sont un choc culturel garanti. Est-ce que tu as ressenti ça ou c'est ailleurs que ça s'est passé?
Je ne sais pas, honnêtement. Tu sais, en Inde, moi, je suis allée dans la Watt en Inde. Je suis allée pour des reportages. On était prise en charge. J'ai pas vécu...
L'Inde à la dure.
Non, puis même quand je partais seule, tu sais, je suis allée quand même visiter le Taj Mahal par moi-même et tout ça. Puis on dirait que je suis assez imperméable à quand on... Tu sais, les gens qui font les rabatteurs qui veulent nous vendre des choses et tout ça. Ça me prend pas beaucoup de temps avant de m'en débarrasser. Je sais pas pourquoi. Je pense que je dois avoir l'air ben bête quand je veux. Mais c'est comme si j'arrive à faire une bulle puis c'est comme s'il existe pas puis je vais à mon objectif. J'ai pas vécu de moments particulièrement déstabilisants de ce côté-là. Je dirais que c'est plus des petites choses auxquelles on s'attend pas souvent, moi, qui m'ont... Tu sais, au niveau de la nourriture aussi, là, tu sais, genre, quand je suis arrivée à Taïwan, là, c'était la première fois que je m'installais en Asie. Puis, tu sais, moi, je me pensais très, très ouverte et capable de m'adapter, là, mais j'ai mangé du McDo pendant les premières semaines parce que je ne pouvais identifier aucun aliment que je voyais. J'avais aucune idée de ce que j'avais devant moi, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, finalement, je pensais que je m'étais adaptée un peu de plus depuis, là, mais non, pas tant, tu sais. Fait qu'après ça, oui, j'ai pu manger plein de choses. Tu sais, à un moment donné, j'achetais des nouilles, tu sais, je pouvais pas lire. Fait qu'évidemment, j'allais à l'épicerie faire mon épicerie, puis je m'achetais des ramen, tu sais, instantanés pour survivre parce que je suis pas une grande cuisinière, puis il y a pas tous les ingrédients que je connais sur place. Fait que j'avais aucune idée c'était des nouilles à quoi. Fait que j'achetais des nouilles au brun, au rouge, au jaune, parce que je savais que c'était les couleurs de boîte que j'aimais, tu sais. Fait que pendant des mois, il y a bien des affaires que j'ai mangées, j'ai aucune idée c'est quoi, tu sais. Dans les marchés, par la suite, j'essayais de mémoriser ce que je voyais, les noms, au moins m'en rappelant chinois de ce que j'aimais, mais je savais pas toujours non plus ce qu'il y avait forcément dans ce que je mangeais, tu sais. Ça m'est arrivé d'être très, très, très malade aussi parce que je me faisais trop confiance, tu sais. Fait que des chocs culturels, des fois, c'est quand tu penses que t'es super adapté aussi, que t'as un choc parce que...
Tu relâches ta garde, tu baisses la garde et là, tout à coup, tu te fais ramasser par le truc qu'il fallait pas goûter.
Exactement, tu sais. Puis non, puis je me souviens d'avoir eu des chocs culturels en France aussi, parce que je suis allée plus tard en France. Parce
on
que
peut en avoir avec des discussions en France, notamment.
Oui, puis c'est parce qu'on s'attend à ce qu'on soit... Parce qu'on parle la même langue, on s'attend tellement à être pareil que j'ai vraiment eu des fois des chocs de... Je me dis, mon Dieu, pensez-vous vraiment comme ça? Juste la relation avec l'alcool, c'est pour moi un grand point, là, tu sais. Ma belle-famille, ma belle-sœur habite dans le Beaujolais, tu sais, je veux dire, tout le monde boit puis prend son auto après, là, tu sais, c'est même pas quelque chose que ils trouvent vraiment que j'exagère, eux autres, quand... Moi, ça m'inquiète, je fais, voyons, on va-tu vraiment tout le monde a bu, tu sais? Puis, ironiquement, j'ai pas de permis de conduire puis je bois presque pas, là, tu sais, c'est toujours l'ironie là-dedans, là. Mais vraiment, tu sais, fait qu'il y a des choses comme ça qui nous confrontent dans les... Puis, tu sais, la relation qu'on a avec le danger aussi, avec toutes sortes de choses, avec les relations hommes-femmes. Oh mon Dieu, Françoise, ça, c'est un autre sujet.
Mais tu le dis en Afrique, mais c'est un peu partout dans le monde. On a à confronter
ça. En France aussi.
En France, beaucoup.
Les discussions en France, le côté paternaliste, des fois, j'ai été confrontée... Des fois, des gens, tu sais, des gens en position de pouvoir qui se sentent vraiment, vraiment, vraiment hot. Puis, tu sais, ça m'est arrivé à un moment donné, j'étais dans un événement. Puis là, le monsieur se présente à moi, tu sais. En fait, c'est pas vrai. Le monsieur me demandait, vous, qui vous êtes? Qui êtes-vous? Là, ben, je me présente, je dis mon nom, tout ça. Je dis, et vous, vous êtes qui? Parce que j'avais aucune idée, il était qui? Mais c'était quelqu'un de super connu, une éminence là-bas. Il a été tellement insulté, tu sais. J'ai vraiment senti le côté hiérarchique, tu sais. Tout ça, moi, c'est quelque chose. Si on n'a pas ça au Québec, on n'est pas comme ça, on n'est pas dans cette esprit-là. Fait que c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé à Taïwan aussi. Je l'ai vécu beaucoup parce que j'étais là un an et demi. J'avais une boss qui était, mon Dieu, une petite caporale d'armée super intense, qui parlait comme ça puis qui était vraiment, tu sais, qui mesurait 4 pieds et demi mais qui criait comme, bon, tu peux l'entendre, je pense, 4 kilomètres plus loin, là. Puis, tu sais, j'ai vécu aussi des conflits de travail juste parce qu'on se comprenait pas, parce qu'on pensait qu'on disait la même chose. Mais, tu sais, elle était là devant moi puis elle souriait. Elle souriait, elle disait oui, 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 mais en fait, compte, c'était pas ça du tout, là. C'était le contraire qu'elle pensait, tu sais, décoder la personne devant toi. Tu sais, quand on parle d'être illettré, là, que c'est un choc d'essayer de lire une langue que tu peux pas lire, mais décoder la personne dans ses expressions qui sont tellement différentes de nous.
Je sais pas toi, mais moi, je partais dans ma tête. Bon, j'ai appris l'arabe, mais on se calme. Je parle... je me débrouille, on va dire, parce que c'est quand même une langue complexe.
Ouais.
Mais dans les tout premiers temps, où je comprenais même pas où commençait et finissait un mot dans la phrase, et là, ils se mettaient à 5-6 à discuter en arabe autour de moi, je partais carrément dans ma tête. J'ai appris à faire le vide dans le milieu d'un groupe parce que ça devait... Mais cette sensation-là d'être illettré, ça m'a vraiment confrontée. Ça m'a fait comprendre la réalité de gens qui sont analphabètes et qui n'ont pas accès à certaines informations, donc de ne pas pouvoir lire le journal, de ne pas pouvoir lire un menu au restaurant.
Ah oui.
La plage que je fréquentais où j'avais beaucoup d'amis, un jour, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux? » Genre, je ne sais pas trop. Mais il dit « Regarde, c'est tout écrit. » Oui, mais moi, je ne lis pas l'arabe. Il m'a regardé avec il était tellement étonné de ça, tu sais, que je ne pouvais pas lire. Donc, oui, ça, c'est assez confrontant. Ça nous confronte à notre propre culture, à nous, là.
Complètement. Puis tu parles de restaurant. Moi, j'ai un souvenir de mes premières journées à Taipei. Je suis dans un restaurant, je me dis « Ah, c'est assez touristique ici, il devrait comme avoir un menu en anglais, tu sais. » Le seul mot qui était écrit en anglais, bien, c'est pas en anglais, là, mais c'était « spaghetti », OK? Fait que t'avais « spaghetti » puis plein de caractères chinois. « Spaghetti », plein de caractères chinois. T'avais à peu près 10 affaires avec « spaghetti », mais tu...
Mais tu n'avais aucune idée ce qu'il y aurait dans le spaghetti.
J'avais aucune idée. Fait que j'ai pointé un spaghetti au hasard. Il était sucré.
Ah, d'accord.
Comment tu peux imaginer que tu vas avoir un spaghetti sucré? T'sais? C'est dans les moindres détails, souvent, où tu es le plus, je pense, confronté justement à tous ces petits chocs-là, ces choses-là qui paraissent anodines à posteriori, mais qui me font rire maintenant. Mais sur le coup, tu es comme, OK, peux-tu juste manger un spaghetti qui goûte le spaghetti? Puis en même temps, c'est la pire erreur à faire de rechercher quelque chose qu'on connaît quand on voyage. Là. Mais en même temps, on a besoin de se réconforter. Fait que c'est pour ça qu'au début, je me déculpabilisais en me disant, je peux pas croire que je vais manger du McDo alors que je suis à Taïwan, puis tout le monde parle de la gastronomie. Mais ça j'ai trouvé une espèce de réconfort dans quelque chose que je mange même pas ici, étonnamment. C'est comme si je pouvais identifier ça, ça me faisait du bien. C'était comme une mini-zone de confort dans l'océan d'inconfort dans lequel j'étais, tu sais. Puis par la suite, bien, effectivement, j'ai mangé beaucoup d'affaires étranges dont je ne pourrais jamais nommer. Puis plein de bons poissons. Oh, Françoise, là, les marchés de nuit, là. Oh, mon Dieu, c'est la chose qui me manque le plus, je pense, aujourd'hui encore.
Raconte-nous donc ça un peu.
Ben moi, je vivais dans une petite ville qui s'appelle Keelung, OK, qui est vraiment dans le nord, qui détient le nombre
le
nord de Taïwan, de l'île de Taïwan, donc qui détient le nombre de jours, de records de jours de pluie, je pense, en Asie ou au monde. Là, je me souviens plus, mais il pleuvait tout le temps.
Il pleuvait tout le temps. Humide.
Vraiment très humide. Genre, tu mets t'étends tes vêtements sur la corde à linge là, dehors, là, puis ça prend 4 jours, puis des fois c'est encore humide, tu sais. Fait qu'il pleuvait beaucoup, mais j'adorais ça. Sincèrement, j'ai adoré ce... Il y avait une espèce de mélancolie, je trouvais. C'était... Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Puis tu parlais de la musicalité aussi. Tu parlais pas de la musicalité, mais d'être illettré puis de pas comprendre. Moi, je voyais une musicalité dans tout ça. C'est quelque chose qui m'a énormément manqué au retour.
Oui, tout à fait, de l'entendre.
Oui.
Ah oui.
Il y a quelque chose de... Quand tu dis que tu te perdais dans ta tête, là, moi, ça, là, je trouvais ça rassurant, réconfortant. Oui, ça m'amenait dans mon imagination, tout ça, tu sais.
Il suffit que j'entende des Libanais parler ici à Montréal et je suis tout de suite transportée là-bas dans émotions. Hein. Ça ne fait pas juste me dire « Ah, tiens, il parle Libanais ». Non, ça me transporte littéralement dans les émotions de l'époque ou dans le vécu de l'époque. Oui, tout à fait.
Je passais beaucoup de temps dans le quartier chinois quand je suis revenue après un an et demi.
Oui, pour entendre les sonorités, oui.
Pour entendre, pour les odeurs, les goûts. J'avais vraiment, je ne sais pas, puis j'avais besoin de continuer, on dirait, entendre du chinois puis à pratiquer le peu de chinois que je connaissais, là, puisque j'avais quand même étudié le chinois, même si j'étais vraiment pourrie. J'ai demandé des choses qui n'ont pas de sens. Là. C'est vraiment pas une langue facile, surtout pour moi qui n'est pas super douée avec les langues. Là. Mais je pense qu'aussi, les faux pas qu'on fait dans une langue qui n'est pas la nôtre, il y en a plusieurs aussi dans qui peuvent marquer, disons, nos existences de voyageurs.
Un choc culturel qui t'a rebuté, là, que vraiment, là, ça t'a pas pu passer par-dessus?
La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le tofu puant. C'est du tofu qui est macéré pendant très, 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 très longtemps dans toutes sortes de substances très, 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 très dégueulasses, non, selon nos standards, disons, nord-américains.
Vous ne me voyez pas, mesdames et messieurs, mais j'ai vraiment une
Elle est en train de grimacer.
Oui.
Et ça sent, Françoise, là, mais ça sent la mort. Ça sent, là, de loin. Et je ne suis pas arrivée à goûter. Ça, je regrette. À chaque fois, je suis retournée quand même après, là, puis je me dis, OK, cette fois-ci, je vais être capable. Non, je n'ai pas été capable. Mais le durian.
Ah, Hélène Laurendeau nous en a parlé lors d'une balado gourmande. Le durian, oui. De l'odeur du durian.
Il y a
des hôtels qui interdisent d'apporter du durian dans l'hôtel.
Oui, mais j'ai eu la chance de faire une visite guidée à Bangkok avec une excellente guide qui m'a amenée dans un marché qui m'en a fait goûter du bon. Au bon, parce qu'il faut le manger au bon moment. C'est ça que j'avais pas compris. Et c'était délicieux. Mais il faut savoir quand, comment, parce qu'effectivement, c'est l'odeur la plus atroce qu'on peut imaginer là, quand on passe à côté d'un durian, d'un stand.
Il y a même de la crème glacée au durian, qu'elle nous disait.
Il y a de la crème glacée au durian. Il y en a dans toutes sortes de choses. T'sais. Mais c'est souvent ce genre de... la bouffe, j'avoue...
Que sont les plus gros chocs dans la bouffe?
J'aime goûter à plein de choses, mais j'ai du mal parfois, OK? Tu sais... Écoute, je te donne un exemple. À un moment donné, j'étais au Mali dans un autobus. Tu sais, juste pour mettre en contexte, l'autobus, là, il démarre quand il est plein. Okay? Mais plein étant relatif, ça peut être bien, bien long. T'sais. Fait que déjà, j'étais en train de cuire dans mon petit banc. Puis je voyageais avec mon ordinateur, avec toutes mes affaires. Puis j'étais toute seule. C'était long, c'était compliqué. Et là, il y a un monsieur qui s'assoit à côté de moi pour l'essentiel du trajet. Et il avait au bout d'une corde un morceau de viande qui pendouillait et qui sentait très fort. Fait que tu sais, quand je te dis les chocs culturels, c'est plus de me dire que peut-être que ce que je suis en train de manger, c'est ce qui pendouillait au bout de sa corde tantôt, tu sais, que je vais retrouver, mettons, dans un marché plus tard. Il y a comme toutes ces équations-là qui se font dans ma tête puis que j'ai du mal parfois à passer outre. Parce que je vois trop de connexions.
Puis t'sais. Au-delà de la nourriture, les chocs culturels, on a parlé de la relation homme-femme, mais ouais. Est-ce qu'il y a eu autre chose? Est-ce que, à quoi on doit s'attendre? À quoi on doit s'adapter quand on vit ailleurs ou quand on voyage beaucoup?
Bien, je pense que la condition des femmes est un grand, grand défi, disons-le, pour une femme qui voyage, surtout une femme qui voyage seule. Je me souviens encore de... C'est ça, je suis allée en Inde une fois et on nous avait dit, puisque j'étais avec d'autres journalistes, et on nous avait dit de ne pas porter des vêtements avec des bretelles spaghettis, ce genre de choses-là, tu sais. Puis moi, j'avais vraiment respecté à la lettre, tu sais, j'avais des manches longues, j'avais tout était long et tout. Et il y avait, je me souviendrai toujours, deux journalistes, je veux pas dire la nationalité parce que ça va être un gros cliché, mais c'était deux journalistes, disons, d'un pays d'Europe qui avaient des bretelles spaghettis, puis qui s'en foutaient complètement. Puis moi, j'ai beaucoup de choc envers les touristes. Pourquoi on comprend pas que c'est à nous de se conformer dans une culture? Ça, c'est un choc que j'ai souvent. À chaque fois, ça me révolte un peu, tu sais. Mais de la même façon qu'il y a des choses parfois très drôles qui se passent, j'étais à un moment donné à Abu Dhabi, puis il fallait se couvrir les cheveux, tu sais, pour visiter une mosquée.
Ah oui, ça, pour visiter
fallait
une mosquée,
vraiment,
oui.
Pour visiter la mosquée, il fallait se couvrir
parce
les cheveux.
Parce que dans la ville,
Non, pas du tout. Mais bon, je me mets un foulard. Mais j'avais une petite couette qui est sortie à un moment donné, puis on me l'a dit, là. Vraiment, il fallait que je rentre la petite couette. Puis là, je me tourne, puis je vois une touriste qui avait un foulard sur sa tête, mais avec des têtes de mort, tu sais. Je me dis, OK, moi, j'ai une couette qui sort. Faut que je remette la couette, mais une tête de mort, ça passe. Il y a comme quelque chose qui était, pour
les
moi,
codes,
surréaliste.
C'est pas les mêmes codes, oui, tout
oui,
à fait.
Oui, c'est ça, nos codes, exactement. Puis les choses auxquelles on accorde de l'importance ne sont pas les mêmes.
Parce que ce que tu es en train de dire aussi, c'est un peu que on a, nous, le choc culturel pendant qu'on voyage, mais en même temps, on peut être le choc culturel des gens sur place.
Aussi, bien oui, clairement. T'sais. Puis tu sais, l'autre chose aussi... Tu parlais tout à l'heure de tout ce que le côté de la colonisation, ce que ça a laissé comme trace. Comme blanche nord-américaine, souvent, quand je vais dans des pays d'Afrique, par exemple, ben on pense que je suis d'emblée française parce que je parle français, puis aussi parce que je parle parce, pour me faire comprendre, je ne vais pas sortir mon gros accent québécois extrême, tu sais. Et souvent, quand on réalise qu'on est québécois, je trouve qu'il y a une bienveillance qui s'installe parce qu'on sent encore beaucoup le poids de la colonisation un peu partout
oui,
où on va. Puis la fois, tu me demandais mon plus gros choc culturel, je pense que mon plus gros choc culturel, c'est quand j'interviewais des enfants qui avaient travaillé dans des plantations qui avaient été esclaves dans des plantations de cacao en Côte d'Ivoire et qui avaient été repris, qui avaient réussi à se sauver et qui avaient été pris en charge par des organismes au sud du Mali, donc à la frontière. Et je faisais un reportage pour justement voir comment ça se passait, tout ça. J'ai pas mangé de chocolat pendant un an, juste pour te dire. Mais en gros, pourquoi je te parle de ça, c'est que le regard de ces enfants-là, qui étaient des ados maintenant, sur moi, qui étaient là pour recueillir leurs témoignages puis à entendre leur histoire, ils me regardaient, Françoise, comme si j'étais responsable de tout leur malheur. C'est comme si j'incarnais...
On le sent, la haine, parfois, dans le regard.
Je sentais cette haine-là, puis je sentais, encore une fois, qu'il n'y aurait pas de pont pour traverser ça, tu sais. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment bouleversée. Ça m'a fait de la peine, ça m'a... Tu sais, moi, je me disais, je vais là parce que moi, dans ma tête, j'ai envie d'entendre leur histoire, puis je trouve que ça vaut la peine qu'on raconte ces histoires-là.
Il faut accepter que nous traînons avec nous
ouais.
Un bagage qui ne nous appartient pas personnellement,
exactement.
Mais collectivement.
Exactement.
Et on participe, sans le vouloir, à cet héritage culturel-là. J'ai envie, en terminant, de parler de l'inverse. Parce qu'on a un choc culturel quand on voyage, mais quand on voyage beaucoup et ou longtemps et qu'on revient vers le Québec, il y en a un choc culturel aussi.
Le fameux reverse culture shock, dont on nous parle aussi dans les fameuses formations avant les stages.
Mais il est vrai, il existe.
Il est vrai. Il est vrai. Et moi, j'ai mis vraiment, vraiment du temps à m'en remettre. Mais après 3 mois à Ouagadougou, moins. C'est plus après mon année et demie Taïwan.
Ça prend plus que 3 mois pour se...
Je l'ai vraiment, vraiment eu longtemps. Puis j'ai longtemps pensé que je repartirais aussi. parce que justement, j'étais plus aussi connectée à ma culture. Je sentais vraiment un décalage. Je sentais un décalage aussi avec beaucoup de gens qui n'avaient pas nécessairement vécu les mêmes choses, mais qui n'avaient pas non plus, qui accordaient de l'importance à des choses qui me semblaient beaucoup moins importantes à ce moment-là. Puis encore là, encore une fois, c'est dangereux parce qu'on peut aussi verser dans le jugement parce qu'on est devenu tellement critique. Puis ça aussi, je suis revenue à un certain juste milieu avec les années, je pense. Mais sur le coup, ça m'a confrontée à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis oui, il est vrai ce choc du retour là, dont on parle beaucoup. Bien, pas assez, en fait.
On dit que l'ignorance entraîne les préjugés, la méfiance, etc. Pourtant, les gens voyagent de plus en plus. Des millions de gens prennent l'avion chaque année, déménagent de continents, de pays, de cultures, justement. Et on n'a pas l'impression que la compréhension mutuelle et internationale, le tourisme, autrement dit, n'ouvre pas nécessairement les ornières qu'on a en partant. Et je pense que ça fait partie peut-être de ce qu'on doit mettre dans notre valise, peut-être, cette ouverture un peu volontaire. Il faut faire un effort d'ouverture, mais c'est pas toujours simple.
Bien, c'est parce que déjà, en partant, faut pas chercher... Moi, ça me rend toujours complètement folle le matin quand les gens cherchent les mêmes choses pour déjeuner qu'ils ont chez eux, tu sais. Il y a un côté pour moi... Oui, c'est bizarre manger de la soupe le matin au Japon, tu sais, mais c'est ça qu'ils mangent, tu sais. Il y a un côté où, effectivement, s'ouvrir un peu l'esprit, puis être capable d'aller au-delà de... En tout cas, oui, mais t'as raison, c'est pas simple, en fait, non plus.
Non, puis en même temps, moi, j'ai des déceptions parce que, bon, on voyage, on est à la recherche, justement, de la soupe au Japon le matin, là, peut-être, mais finalement, on est standardisé internationalement dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et, par exemple, moi, j'ai très bien mangé en France, mais quand je suis arrivée dans le quartier latin à Paris, j'ai vraiment pesté, là, parce que c'était immangeable, complètement normatisé.
Au café de Flore, mettons, puis tout ça, là.
Ben, c'était pas le pire. Moi, c'était vraiment le quartier latin où j'ai trouvé que c'était vraiment ahurissant.
Ouais.
Donc, je suis arrivée dans des pays beaucoup plus exotiques que la France, où là, finalement, on avait américanisé, internationalisé le service, les plats, les mets offerts, et même le décor, des fois, des hôtels et tout ça. Donc, ça, c'est un petit peu...
Il faut chercher, en fait.
C'est un peu acculturant, puis c'est un peu négationniste, je trouve, de la culture vers laquelle on va. Ça m'a un peu choquée. C'est pas facile. C'est pas facile d'avoir l'âme voyageuse et l'esprit voyageur.
Hein? Ouais.
On se laisse là-dessus, Marie-Julie.
Bien, c'est bien agréable comme discussion.
Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Merci. Merci encore, Marie-Julie, de t'être prêtée au jeu. Merci à Charles Thompson-Leduc à la réalisation. Je vous rappelle qu'on enregistre des studios du Montréal Cowork, que vous pouvez suivre nos balados sur toutes vos plateformes préférées. Je vous invite à découvrir aussi nos autres entretiens, les entretiens gourmands, notamment avec Hélène Laurendeau, nos entretiens inspirants avec des personnalités de différents horizons. Et moi, bien, je vous remercie encore de votre présence et je vous dis à la prochaine.
Bye bye!